Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'Agité du Local. On va parler aujourd'hui déjà, avant évidemment au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très bonne année 2022 à vous et votre famille. Évidemment, c'est la reprise des émissions en direct du studio, en tout cas aujourd'hui, avec justement au menu de cette émission, vous entendrez le témoignage d'un réfugié afghan arrivé à Cran il y a presque deux mois, il est accompagné par les Restos du Cœur, le rucher pédagogique des abeilles mayonnaises qui a à cœur de faire découvrir le rôle essentiel de l'abeille et de son environnement pour la biodiversité. Et puis vous entendrez aussi le premier épisode autour du SNU, le Service National Universel, avec une nouvelle campagne d'inscription en Mayenne. Et d'abord, évidemment, un premier point, qu'est-ce que ce dispositif et quels sont ses intérêts? Évidemment, on répondra en fin d'émission. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité. Un nouveau directeur pour l'hôpital de Laval, Sébastien Tréguenard, qui a été nommé jeudi dernier, alors qu'il était auparavant directeur adjoint du CHU d'Angers. Ce n'est pas un inconnu à Laval, puisqu'il a assuré la direction par intérim en juillet et août cet été. Il a été remplacé en septembre par Christophe Menuet. On ne connaît pas encore sa date d'entrée en fonction. Les dépistages se multiplient en Mayenne, avec des tests proposés de 11h à 16h toute cette semaine. Aujourd'hui, à Mayenne et Saint-Berthevin. Demain, à Martigny-sur-Mayenne et Château-Gontier. Mercredi, ce sera à Bonchamp et Quelaine-Saint-Gault. Jeudi, à nouveau à Château-Gontier et à Lucery. Et vendredi, à Laval. Voiture, vélo, transport en commun ou marche à pied? La communauté de communes du pays de Château-Gontier lance une grande enquête autour de la mobilité et des transports. Les réponses et l'organisation d'ateliers participatifs permettront notamment d'élaborer le plan de mobilité durable et alternative du Sud Mayenne. L'enquête se poursuit jusqu'à la fin du mois sur le site châteaugontier.fr. Et puis pour permettre une troisième saison de panier artistique, rejoignez le groupe de pilotage. Ce dispositif solidaire permet le financement et la création de courtes formes artistiques qui réunit des artistes qui n'ont pas l'habitude de collaborer ensemble. Deux spectacles ont pu être montés en Mayenne l'an passé. Alors pour préparer ceux de 2022 et rejoindre le groupe de pilotage, une réunion est organisée le 18 janvier à 11h à Laval. Inscription par mail à info53@ouvrirlhorizon.fr. Et puis Carnet Rose à l'hôpital de Château-Gontier. Le premier bébé de l'année s'appelle Nashsou. Il est né samedi à 21h42 au centre hospitalier du Haut-Anjou et il vient agrandir la famille de Pauline et Alexandre, originaires de Saint-Martin-du-Bois et déjà parents de deux enfants. Au total, 756 bébés sont nés à la maternité de Château-Gontier en 2021. C'est 7 de plus que l'an passé. Et puis en sport, deux Mayennais sacrés cravache d'argent en 2021. Le Lavallois Maxime Guillon qui a décroché une 7e cravache d'argent en plat avec 181 victoires. Et en obstacle, le crânais Clément Lefebvre qui se place également second pour la 2e année consécutive. Et puis je vous en parlais en tout début d'émission, il est arrivé d'Afghanistan il y a un peu plus d'un mois. Kristani tente de se reconstruire à Cran, installé dans le centre-ville avec Andrew, un autre réfugié. Il fait partie des personnes accompagnées par les Restos du Cœur. Rencontré lors d'une distribution alimentaire, il témoigne de son exil, comme celui de 800 000 Afghans depuis le retour des talibans au pouvoir cet été. Le doublage est assuré par Andy.
My name is Kristani, I am from Afghanistan. And I came about 6 months ago in France.
Je m'appelle Kristani. Je viens d'Afghanistan et je suis arrivé en France il y a 6 mois. Je vivais à Nantes et ensuite, ils m'ont transféré à Cran depuis un peu plus d'un mois. Le gouvernement me verse environ 200 euros par mois, mais ce n'est pas assez pour vivre. Alors on m'a orienté vers cette association. Une fois par semaine, ils nous donnent de la nourriture et c'est appréciable pour nous. On est content. En réalité, on a quitté notre pays à cause de nombreux problèmes, notamment des problèmes de sécurité. Ma vie était en danger, alors j'ai voulu quitter l'Afghanistan et rejoindre la France. Mais en ce moment, ma famille et mes enfants sont toujours sur place. C'est très difficile pour moi. Quand je pense à eux qui sont dans cette situation compliquée, j'essaie de trouver un moyen de les faire venir en France et qu'on puisse vivre tous ensemble. Parfois, j'arrive à leur parler et à avoir de leurs nouvelles, mais ils changent souvent de maison. Ils passent d'un logement à un autre. C'est très difficile pour eux. Parfois, ils n'ont ni téléphone ni internet pour que je puisse leur parler.
Changing their place, they are living in one place, then they go to another place. It's very difficult to them. Sometimes they don't have phone, internet to call them, talk to them.
Pas toujours de réseau téléphone ou internet et des proches qui lui manquent, mais il souhaite faire venir sa famille en France dans les prochains mois.
I hope, yeah, but now I'm in a process with.
J'espère oui. Là, je suis engagé dans une procédure avec l'OFPRA. Quand j'aurai ma réponse de l'OFPRA, j'espère les faire venir le plus tôt possible. Parce que mes enfants sont si petits, ils ont 2 ans et 3 ans et demi. Je leur manque beaucoup et ils me manquent aussi beaucoup. Quand on discute, ils me demandent tout le temps, « Pourquoi ne reviens-tu pas à la maison ? Où es-tu ? Pourquoi es-tu si loin de nous ?» Ils ont vraiment besoin que je fasse attention à eux. Je dois m'occuper d'eux et j'essaie de faire au mieux.
Rien de facile à distance. En attendant, Kristany essaie de s'habituer à sa vie en France et à ses conditions de vie plutôt précaires ici en Mayenne.
It's a building. I'm living there with my
friend. Ici, on vit dans un immeuble avec mon ami Andrew. Quand on compare avec l'Afghanistan aujourd'hui, oui, c'est pas mal. Mais par rapport à l'Afghanistan avant les talibans, j'y ai perdu. Pas moi en particulier d'ailleurs, mais tous ces gens qui ont quitté le pays, ils faisaient de bonnes affaires, ils avaient de bons jobs, ils avaient leur famille, ils avaient tout. Et maintenant, nous avons tout perdu.
Sa priorité pour l'instant, faire avancer son dossier avec l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour ensuite réunir sa famille en France. On va parler de leur rucher pédagogique qui met en valeur le rôle de l'abeille, mais aussi et surtout son rôle dans la préservation de la biodiversité. Ce sera juste après Deluxe avec leur titre I Got.
Can't make this losery. I got rules, I got way. I can set this over quick. I got tools, I got tricks. I can make this losery. I got rules, I got way. I can set this over quick. 6 or 6 and 8, come for Desi, sure as size 3. Point with 4 or 5, I come alive, my baby, die for free. Walk a stick, Jamaica team, dancing like you never seen. It's like you never seen. Panorama, gamma beam, trying to build your plasma screen. My mean,
I got tools, I got tricks, I can make this lose a win. I got rules, I got it, I can set this over quick. I got tools, I got tricks, I can make this lose a win. I got rules, I got this, I can set this over quick.
Rolling tongs, I got the bomb in my palm, but not too strong. I hit the bomb in my thumb. Where did I become? I'm lippy calm. I finally find an oasis in between the highest pinnacle and place, the temple cream. I fit the regular place, that's what I mean. Yes, I'm a boss like you ain't seen, never seen.
I got tools, I got tricks, I can make this news a win.
Jumping, attack of the cobra, venom sting. Give me the loot, look at the poop. I took my flute, the medicine. I spit till you get sick. I'm back for it to end. Set fire to this cracker and devour all your odds it is. Boy, you never blink, you know it. Boy, you never blink. And your sentiment is borderline irrelevant. Boy, you never blink. Boy, you never blink. You're
we'll be right back.
Luxe avec I Got dans l'agité du local sur l'autre radio. Leur rucher pédagogique met en valeur le rôle de l'abeille, mais aussi celui de son environnement. L'association Les Abeilles Mayonnaises est installée avec ses ruches à Saint-Pierre-le-Potier, au sud de Laval, depuis un peu plus de 6 ans. En projet depuis plusieurs mois, leur rucher pédagogique est désormais prêt pour les visites d'écoliers et plus largement pour les visites du grand public. Explication avec le président de l'association.
Oui, bonjour, je m'appelle Michel Bélanger, je suis président des Abeilles Mayonnaises depuis le mois de mars 2021, donc c'est récent.
Les Abeilles Mayonnaises installées ici depuis 5 ans maintenant, 6 ans même on peut dire, ici à Laval au rucher du Potier, avec une nouveauté là, c'est vraiment l'aboutissement d'un rucher pédagogique. Pourquoi avoir mis ça en place? Quels sont les objectifs?
Alors initialement on est sur un site, donc le rucher du Potier, qui est en fait l'ancien terrain de camping de Laval, qui fait à peu près 1 hectare, et lorsque ce terrain appartient à la ville de Laval, et dans la convention de mise à disposition, la ville de Laval nous le mettait grâce à en contrepartie, elle souhaitait qu'on en fasse un espace pédagogique justement pour les écoles et les enfants. Donc ça a pris un petit peu de temps. Et l'idée justement, c'est que d'une part sur ce site-là, on continue à faire ce qu'on appelle un rucher école. Mais le mot école, c'est pour apprendre l'apiculture aux adhérents de l'association. Donc à la fois les adultes, éventuellement des jeunes, mais surtout des adultes, hein, pour faire de l'apiculture qu'on appelle familiale et de loisirs. C'est en gros pour avoir quelques ruches chez soi. Et ensuite, justement, depuis 2020, ça fait maintenant 18 mois, on met en place un rucher pédagogique, c'est-à-dire une partie qui va être accessible au grand public pour pouvoir faire découvrir justement l'abeille dans son environnement, dans sa biodiversité, avec tous les insectes pollinisateurs aussi qui concourent justement à la pollinisation des fleurs et qui sont aussi autant indispensables que l'abeille.
Il y a plusieurs stations, il y a tout un parcours, il ressemble à quoi?
Alors en fait, il y a 11 étapes, hein, 11 étapes qui vont me permettre justement au fur et à mesure de montrer aussi toute la nature qu'il y a sur un rucher, mais aussi sur une parcelle comme chez soi, parce que généralement, on va dans des endroits spécialisés où on parle des animaux sauvages qu'on va voir à la télévision dans les zoos. L'idée, c'est justement à travers ce parcours pédagogique, c'est de faire découvrir l'ensemble du vivant qu'il y a aussi sur le site. Et l'ensemble du vivant, c'est aussi bien la faune que la flore, et que cet ensemble du vivant fait partie de la biodiversité, donc de la chaîne alimentaire, et que chacun a sa place. Donc c'est un maillon qui est indissociable, et que s'il y a un maillon faible, eh bien en fait l'ensemble de la chaîne va également être fragilisé. C'est surtout ça qu'on voulait faire comprendre. Donc l'idée, c'est comme l'abeille est un super ambassadrice pédagogique, c'est l'idée qu'à travers l'abeille domestique, on puisse découvrir à la fois les autres insectes pollinisateurs. Vous savez par exemple qu'il y a en France plus de 2000 espèces d'abeilles sauvages. Ben, c'est intéressant parce que un certain nombre d'abeilles sauvages sont menacées, beaucoup plus d'ailleurs que l'abeille domestique, mais aussi par exemple le fait d'avoir ici mis un abri pour le hérisson, c'est aussi parce que c'est une petite bébête qui est gentille, mais aussi l'intérêt d'avoir mis cet abri à hérisson, c'est déjà d'une part pour apprendre aux gens que s'ils veulent en faire chez eux, c'est facile à faire, mais aussi que la présence de l'hérisson est importante, parce qu'on appelle c'est un marqueur de biodiversité, c'est-à-dire que s'il y a des hérissons qui sont présents sur le site, ça veut dire que l'environnement est favorable à la présence du hérisson. Ça veut dire que l'hérisson, il consomme quoi? Il consomme des insectes, déjà. Il consomme des vers de terre. Et que si, dans les parcelles autour, l'agriculteur met beaucoup de produits pour faire des choses, il va tuer les vers de terre, il va tuer les limaces, et du coup, le hérisson ne reviendra pas plus tard ici, parce qu'il n'aura pas sa ration alimentaire. Même chose, on a un autre abri, on appelle la petite faune sauvage, avec des choses dedans qui, à des fois, sont un petit peu répulsives pour les enfants. Il y a des couleuvres, il y a des lézards, il y a des campagnols, etc. Et ben, là, le fait aussi d'avoir, par exemple, il y a deux variétés de couleuvres qui sont présentes ici, que ces deux types de couleuvres, là aussi, ce sont bien des marqueurs de biodiversité. Si la couleuvre, elle est présente là, c'est qu'elle a déjà, d'une part, ben, de quoi s'alimenter. Hein, et ensuite, après, ça permet aussi de... les enfants ont souvent des phobies, mais qu'une couleuvre, ben c'est inoffensif. Ben c'est vrai que c'est la représentation mentale qu'on peut en avoir. Et si on leur montre qu'à la limite, quand une couleuvre est sortie, qu'on l'a autour de soi et que ben la peur, forcément, ben elle va bouger parce qu'elle a peur, ben comme nous, on peut avoir peur d'elle, hein, mais que c'est inoffensif. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire découvrir tout cet ensemble-là. Autre chose aussi qui est toute simple, c'est-à-dire qu'on a creusé une mare. Parce que l'intérêt de l'eau, elle est fondamentale. Dans le temps, pratiquement, dans toutes les fermes, il y avait une mare. À la fois, elle servait, bien sûr, pour abreuver les animaux. Mais il faut savoir que la mare, c'est un écosystème fantastique. Et déjà, d'une part, c'est aussi pour attirer l'attention qu'on a besoin de l'eau. Hein, les abeilles, vous savez qu'une colonie d'abeilles consomme à peu près 60 litres d'eau par an, mais que si elle a besoin d'une eau qui est stagnante, qu'on va dire une eau croupie, parce qu'en fait derrière cette eau stagnante, elle va s'enrichir en inugo-éléments, à la fois par tout ce qu'il peut y avoir dans la nature, mais aussi par la présence d'un tas de petits animaux qui vont être dedans, mais aussi avec une flore aquatique aussi qui va se mettre autour. Et d'expliquer qu'autour de la mare, c'est ce qu'on appelle le peuple de l'eau, ben, il y a aussi toute une petite chaîne alimentaire, notamment par exemple les libellules. Hein, il y a aussi plus de 1000 variétés de libellules qui sont très très menacées parce qu'en fait elles n'ont plus d'espace pour pouvoir se reproduire. Donc vous voyez, l'idée c'est à chaque fois d'attirer cette attention qu'autour de l'abeille il y a plein d'autres animaux, plein d'autres fleurs. D'expliquer par exemple ici, on a replanté 23 variétés d'arbres différents. Et l'idée aussi c'est de montrer que des fleurs, en fait, on dit des fleurs de printemps. Les premières fleurs qui vont sortir, ce sont les fleurs de sol, qui sortent déjà mi-février, jusqu'à la fleur de lierre, qui est au mois d'octobre. Et donc, on a l'abeille, elle a besoin, elle, en permanence, de se nourrir et de pouvoir offrir, justement, une ration alimentaire, donc des fleurs, pendant quasiment 10 mois de l'année. Ben, c'est une façon aussi de maintenir la ressource alimentaire pour l'abeille.
Finalement, qu'il y a un circuit assez complet qui s'adresse à qui ? Peut-être plutôt aux enfants, mais pas seulement. Finalement, on peut aussi y trouver des intérêts, même pour les plus grands.
Oui, en fait, il a été conçu à la fois pour les écoles. Donc, on l'a mis à la disposition des écoles, donc tout un kit pédagogique qui est constitué d'une mallette. Ensuite, on a fait un parcours pédagogique avec un guide et les visites de classe sont faites encadrées par des bénévoles. Donc, eux ont préparé leurs visites et qui leur permettent justement, sous une forme plus ou moins ludique pour avoir une interactivité avec les enfants, de leur expliquer justement ce parcours. Et ensuite, après, c'est aussi accessible au grand public. On va organiser une journée porte ouverte par mois pour qu'ils puissent venir découvrir, déambuler et découvrir un petit peu cet écosystème. Et en plus, on est à l'intérieur d'un site remarquable parce qu'il y a plein de chemins de randonnée autour. Et là, on a un travail avec les autres associations du quartier. On essaie de faire une jonction entre le bois Gamma et le rucher école. À côté, on a les jardins du cœur. Et l'autre côté du bois Gamma, il y a la zonerie avec le donc ils font un élevage d'ânes avec tous les produits de l'âne mais aussi tous les animaux de la ferme et l'idée c'est de faire un parcours aussi pour les adultes et aussi pour les enfants qui va de la zonerie, qui passe par le bois Gamma qui est là aussi une autre diversité écologique et qui passe jusque le long de la Mayenne, en bordure de la Mayenne et on remonte par le rucher pédagogique.
Donc vraiment l'idée c'est aussi de montrer tout l'environnement local, aussi bien au niveau de la faune que de la flore, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Avec une ambition pour nous, c'est que le rucher du potier soit reconnu comme un observatoire de la biodiversité autour des insectes pollinisateurs. C'est vraiment, on va dire, notre positionnement, hein, de dire qu'on soit reconnu en Mayenne comme étant le lieu où on va pouvoir découvrir cet ensemble d'insectes pollinisateurs, mais bien pris dans leur environnement, avec à la fois toutes les plantes, donc arbres, arbustes et fleurs nécessaires, donc qui sont tous qui ont tous une capacité mellifère. Alors, il faut savoir aussi que ce qu'on appelle mellifère, donc c'est pour le miel, mais les arbres sont classés selon deux principes, à la fois leur apport en nectar et leur apport en pollen. Parce que souvent, les gens pensent qu'on fait le pollen, on fait le miel à base de pollen. Non, le miel, il est fait à partir du nectar, qui est plus ou moins la sève de la plante, et que le pollen est indispensable pour l'abeille. Mais en fait, c'est des protéines, si on veut dire, c'est le beefsteak de l'abeille. Hein, et c'est indispensable pour nourrir la reine et les jeunes larves. Donc, sans pollen, il n'y aura pas d'abeille, mais sans nectar, il n'y aura pas de miel. Donc, les deux sont essentiels. On a classé l'ensemble des arbres, c'est pas fini encore, hein, c'est un gros chantier. Donc sur les 23 espèces différentes, à chaque fois il y aura un petit panneau pour expliquer l'intérêt mellifère qui est classé en apport en nectar et en apport en pollen et de la date de floraison. Pour bien montrer aussi qu'on a justement pendant 10 mois de l'année, pratiquement sur le site, des arbres qui sont toujours en fleurs.
Qu'est-ce que vous espérez une fois que les enfants, ou même que les visiteurs de manière générale, après qu'ils aient fait la visite, qu'est-ce que vous espérez qu'ils en tirent ou...
Ben déjà que qu'ils apprennent à découvrir la nature autour de chez soi, parce que je pense que, alors c'est ma sensibilité, mon approche, c'est que de toute façon, si on veut faire la transition écologique, on ne va pas la faire à coup de loi, on ne va pas la faire à coup d'obligation. Peut-être que des fois, il faut un petit peu contraindre, mais en fait, ça va se faire surtout par l'éducation. Et l'éducation, c'est, on devrait faire une éducation civique et une éducation à l'environnement. Et les deux vont de pair. Parce que protéger son environnement, c'est protéger, se protéger soi, mais c'est aussi se protéger les autres. Et si on veut bien se protéger soi, il faut surtout apprendre à protéger les autres. Et les autres, c'est pas que les humains, c'est aussi tout ce qui compose la faune et la flore. Et c'est indispensable. Et donc, il faut avoir ce regard de bienveillance aussi à ce qui est autour de nous. Et ça commence par l'éducation à l'environnement. Et l'éducation à l'environnement commence par les tout-petits. Et c'est eux qui seront demain à qui on va donner en héritage une terre qui va mal. Et mon engagement, c'est de dire, voilà, si je peux apporter ma petite chose aussi, ma petite pierre à l'édifice pour pouvoir construire un monde plus vivable, c'est aussi de commencer à sensibiliser les enfants, parce que c'est avec eux qu'on va commencer à construire le monde de demain.
Des visites vont donc être organisées avec des écoles, des centres de loisirs, un public jeune auquel s'adressait déjà les abeilles mayennaises, précise ce bénévole, qui se souvient des questions les plus fréquemment posées.
Une chose qui est intéressante, qui étonne toujours un peu les enfants, c'est qu'effectivement, quand l'abeille a le nez, elle est adulte, donc il n'y a pas de bébé abeille. oui, et puis effectivement, parler de la reine aussi. Il n'y a qu'une seule reine dans la ruche. Et la reine, elle vit entre 3 et 4 ans. Après, elle va pondre pendant la saison à peu près 1000 œufs par jour. Il faut à peu près aussi 30 jours pour que l'abeille elle naisse. Tous les 30 jours, il y a des abeilles qui meurent. Tous les 30 jours, il y a des abeilles qui émergent. On avait commencé auparavant, on allait dans les écoles auparavant pour présenter effectivement la vie de l'abeille. Et effectivement, depuis qu'on a ici, c'est quand même plus simple. On peut déambuler et expliquer d'une manière un peu plus facile les choses. On n'est pas figé dans une classe d'école, quoi. Mais le problème, c'est de se déplacer dans les écoles avec tout le matériel, etc. C'était assez compliqué. Tandis que là, tout est sur place, donc c'est quand même plus simple. Donc là, ça va être la première année, à partir du mois d'avril, où on va effectivement faire une déambulation autour de tout ce qu'on peut avoir au potier, quoi. Si on a effectivement une aide à mi-temps entre le mois de mars et le mois de juillet, etc., on pourrait effectivement faire des ateliers. Alors des ateliers autour des abeilles, peut-être autour de la cire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette cire d'abeille, etc. Donc voilà, c'est un peu l'idée, mais ça c'est encore un petit peu en gestation, quoi. Pendant les vacances scolaires, oui. C'est à peu près les choses. Par contre, il y aura aussi des formations pour les bénévoles, des formations sur le premier secours, enfin les choses qui peuvent arriver si effectivement les enfants ils viennent auprès des abeilles et qui se font piquer, quoi. Donc alors en général, il n'y a pas de danger, pas trop de danger, mais ça peut arriver, quoi. Pour l'association, par contre, il y a des formations pour les adhérents, pour les débutants, expliquer l'abeille, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer une ruche. Et puis après, on peut se perfectionner le niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'à l'élevage de rennes, quoi. Alors les formations, elles ne sont pas forcément ici. Enfin, il y en a qui peuvent se faire ici, mais à Mayenne, d'abord expliquer ce que c'est que l'abeille. Hein, expliquer ce que c'est que l'abeille, qu'est-ce que le métier de l'apiculteur, les outils, etc. C'est bien sûr l'explique les maladies, ce genre de choses. Donc ça c'est aussi intéressant. Puis en même temps, on peut se frotter à des novices qui ont travaillé en même temps, et puis avoir des tuteurs qui peuvent nous aider au départ, quoi. Quand il y a un problème, par exemple, quand il y a un problème dans la ruche, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai du varroa, quel traitement il faut faire, etc. Si j'ai de la teigne, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis après, aider aussi à l'extraction. Donc le matériel d'extraction peut être assez cher. Donc on peut se regrouper à un certain nombre d'apiculteurs pour acheter le matériel ou utiliser le matériel de l'association. Ça, c'est possible aussi. Ouais.
10 séances de formation sont proposées aux apiculteurs débutants, avec même à l'issue un premier essaim fourni par l'association. Le calendrier des formations et le programme complet est à retrouver sur abeille-mayonnaise.fr. On fait une petite pause en musique avec Vampire Weekend Everlasting Arms et on revient juste après.
it over and drew the curtain. Leave me to myself, leave me to myself. I hummed the Dixie as you played the hallelujah. Leave me to myself, don't leave me in myself. If you've been made to serve a master, you'd be fighting by the open hand, fighting by the hand. Could I be made to serve a master? Well, I'm never gonna understand, never understand. Hold me in your everlasting arms. Looked up for the fields, trapped beneath the chandelier that's going down.
Jusqu'au bout, Vampire Weekend, Everlasting Arms, c'est ce que vous venez d'écouter dans la JT du local sur l'autre radio. Et on vous propose le premier coup de cœur de cette année 2022. Premier coup de cœur, ou presque, puisque c'est une rediffusion qu'on vous propose de réécouter avec Christophe de Aime-Lire-en-Joux.
Aime-Lire-en-Joux, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour, aujourd'hui cours de cuisine avec le nouveau livre de Marsha Mehran, puisque je vais vous donner la recette d'une soupe à la grenade. Oui, c'est exactement le titre de cette auteure iranienne qui malheureusement est décédée depuis quelques années. En tout cas, ce livre a été un best-seller international et pour la première fois en France, il est traduit aux éditions Philippe Piquier. Cette soupe à la grenade, elle va être le déclencheur peut-être de multiples saveurs puisque toute l'histoire, en tout cas de ce roman, va être jalonnée de plusieurs recettes iraniennes. Alors, à vos lectures, mais aussi à vos fourneaux. Cette histoire va concerner trois sœurs. Trois sœurs qui vont quitter l'Iran à la chute du Shah dans les années 80 et au début du règne de Khomeini. Et elles vont s'installer en Irlande. Alors, je fais une petite parenthèse, mais c'est un petit peu l'histoire de l'auteur elle-même. Ces trois sœurs s'installent dans un petit village irlandais et elles vont décider d'investir un local pour créer un petit restaurant qui va s'appeler le Babylon Café. Et là, bien évidemment, elles vont mettre en œuvre tout leur talent de cuisinière en cuisinant des plats totalement atypiques pour ces Irlandais habitués à manger des choses plutôt classiques. Ça va donner de la couleur au village, ça va donner de la vie, mais c'est pas forcément sous cet œil-là que l'un des plus riches propriétaires de ce village, un propriétaire de plusieurs pubs, voit cette situation. Puisque lui, il avait déjà l'intention de reprendre le local que ses femmes investissent pour y créer un nouveau pub. Et oui, alors les tensions vont s'accroître malgré une histoire d'amour qui va concerner l'une de ses sœurs avec le fils de ce propriétaire de pub irlandais. Alors, c'est une belle histoire. Très souvent, je vous raconte, je vous parle de romans qui sont âpres, durs. Eh bien là, c'est une belle histoire qui n'est pas sans nous faire penser à un autre livre qui va mêler amour et cuisine. C'est le fameux livre de la japonaise Ogawa Ito. C'était Le restaurant de l'amour retrouvé. Tiens, toujours aux éditions Philippe Piquier. Alors voilà, comment combiner saveurs et délices de littérature? Eh bien, je vous invite à découvrir le livre de Marsha Mehran, Une soupe à la grenade.
Retrouvez Aime lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Montier, ou et sur l'autre radio.
Et sur l'autre radio, évidemment, dès demain à 7h30, avec une chronique inédite, celle-là, la vraie, peut-être la véritable nouveauté de 2022. On passe au feuilleton avec plus d'une centaine de jeunes Mayennais qui ont déjà participé à ce dispositif. On parle du SNU, le Service National Universel. Il s'adresse aux jeunes entre 15 et 17 ans. Et c'est donc notre sujet cette semaine. Le SNU existe depuis 2019 dans 13 départements. Il a été ensuite étendu à la France entière en 2020. Perturbée par la crise sanitaire, l'édition plus classique a eu lieu l'an passé. Estelle Leprêtre-Kern est chef de projet départemental pour le Service National Universel en Mayenne. Elle répond aux questions d'Andy.
Donc il y a quatre objectifs principaux en fait au Service National Universel. Le premier en fait c'est de faire vivre les valeurs républicaines. L'idée c'était de constater que on a une jeunesse qui avait parfois perdu un petit peu des repères en fait et qui avait parfois du mal à se situer en tant que concitoyen en fait. Donc l'idée c'était de redonner un petit peu des sens aux valeurs républicaines. Le deuxième objectif, en fait, c'est de renforcer la cohésion nationale. On a une société qui peut sembler un petit peu fracturée parce que on vit dans des territoires différents, parce que parfois on a des religions différentes, parce que parfois on a des parcours scolaires différents, et donc ça peut générer un petit peu de défiance ou de curiosité, un peu peut-être avec d'angoisse. Donc l'idée, c'était de permettre aux jeunes, en fait, de se retrouver et du coup de leur donner à voir que peut-être que d'autres jeunes sont différents d'eux, mais ça n'empêche pas en fait de vivre ensemble et de pouvoir faire société ensemble. Le troisième objectif, en fait, c'est de développer une culture de l'engagement. On voit bien que dans notre société, on parlait de crise du bénévolat, on parlait de crise des élus aussi. On a de plus en plus de mal à trouver des personnes qui s'engagent sur même leur propre territoire, etc. Donc, c'était aussi donner à voir aux jeunes et à nos futurs adultes que s'engager, c'est pas seulement apporter des choses aux autres, mais ça apporte aussi pour soi, en fait, des choses. Ça apporte des compétences, des connaissances, du réseau. Et le dernier objectif, c'était accompagner l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Donc bien sûr, on a un certain nombre de jeunes qui sont scolarisés et qui ont des ouvertures en termes d'insertion ou de perspectives professionnelles. On a aussi des jeunes qui ont moins ces repères-là ou qui, de par leur parcours scolaire parfois chaotique, ont moins ces repères-là. Donc l'idée, c'était d'avoir un sas où on va pouvoir leur donner quelques clés de lecture, situer quelques services publics qui, au cours de leur parcours, en fait, pourront les aider dans leur insertion sociale et professionnelle, s'ils en ont besoin. Voilà, c'était un peu l'idée. En Mayenne, en 2021, on a eu deux centres, en fait, sur la période de juin. Donc, on avait un centre, en fait, qui avait une capacité de 120 jeunes. Et on avait un autre centre qui a accueilli 47 volontaires. Mais la norme, en fait, c'est plutôt des centres, on va dire, d'une moyenne de 150 volontaires. Les inscriptions, en fait, sont ouvertes. On a toujours un SNU en trois phases. Une première phase qui est un séjour de cohésion en fait de 12 jours en internat avec un certain nombre d'activités qui comprennent des thématiques autour de l'environnement, développement durable, insertion sociale professionnelle, culture de l'engagement, etc. On a une phase de mission d'intérêt général en fait, ensuite de 84 heures ou 12 jours, et puis une phase optionnelle d'engagement plus long mais qui rejoint d'autres formes d'engagement qu'on connaît déjà comme le service civique. Pour l'année 2022, on aura trois dates de séjour de cohésion, qui constituent la phase 1 du SNU. On aura un premier séjour du 13 au 25 février. On aura un deuxième séjour du 12 au 24 juin. Et un troisième séjour du 3 au 15 juillet. Donc les jeunes, en fait, peuvent participer à l'une ou l'autre, en fait, des périodes de séjour de cohésion.
Attention, il ne vous reste que quelques jours jusqu'à mercredi pour vous inscrire pour la session de février et jusqu'à fin mars pour celle de juin-juillet. Inscription à faire sur le site snu.gouv.fr. Et demain, on entendra un nouveau témoignage sur cette expérience, celui d'un chef de centre pendant ce fameux séjour de cohésion. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce lundi. Merci de nous avoir suivis et écoutés. Merci aussi à Andy qui était derrière la console aujourd'hui. Restez avec nous puisqu'à 19h il y aura Solénoïde. Ce sera suivi à 20h de la discothèque de notre programmateur Joël. Et à 21h ce sera le tour de l'émission L'Aléatoire. Et nous on se retrouve demain. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2022 à tous et surtout une très belle journée.